le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Et cette semaine, dans les Clés d'écho, on est avec David Rivera-Gonzalez. Bonjour David.
Bonjour Baptiste.
Alors tu es doctorant en économie à l'université de Bordeaux et aujourd'hui tu veux nous parler cette fois-ci de la main invisible.
Ouais, c'est ça, chères auditrices et auditeurs. J'aimerais qu'on papote sur la théorie des jeux et la main invisible. Au programme, on va décanter ensemble certains mystères et illustrer comment la théorie des jeux permet de cogiter de nombreux dilemmes, comme celui du prisonnier. Mais d'abord, essayons de rembobiner un peu dans le temps. Parlons un peu d'un monsieur souvent considéré comme le père fondateur de l'économie tel que nous le connaissons. C'est monsieur Adam Smith. Comme beaucoup de penseurs de son époque, Adam Smith s'interrogea sur comment améliorer le bien-être général. En 1776, critiquable sans doute, ou lorsque chacun d'entre nous poursuit son intérêt personnel, nos intérêts individuels finiraient magiquement par s'agréger dans le meilleur intérêt général pour la société. C'est l'idée des masques d'oxygène dans un avion où il faut prendre soin de soi avant d'aider les autres, ou bien celle du marché qui, on espère doit croiser, finira par se réguler tout seul. Le concept tourne autour du laisser-faire, puisque grâce à une main invisible, si chacun poursuit sa rationalité, on finira par atteindre le meilleur des mondes. Et je ne suis surtout pas ici pour défendre M. Smith. Le meilleur pour la société n'est évidemment souvent pas obtenu lorsque chacun maximise son égoïsme. Les déséquilibres du marché comme les monopoles, l'explosion des inégalités ainsi que de nombreuses crises spéculatives montrent que la régulation du marché est désirable. De plus, la rationalité individuelle prônée par M. Smith ne nous permet pas forcément d'atteindre une situation soit désirable socialement. Voire même on peut penser que la poursuite de notre intérêt personnel lorsqu'on doit interagir avec une autre personne peut nous mettre tous les deux dans l'embarras. Un paradoxe de la rationalité. Pas besoin de chercher loin, on retrouve ces paradoxes lors d'interactions très simples et c'est là qu'on peut revenir au jeu. En gros, la théorie des jeux nous offre un cadre pour modéliser des situations réalistes, une façon très érudite pour dire qu'on va analyser la stratégie autour d'interactions entre plusieurs agents. Ces agents, c'est ce qu'en économie on appelle regarder des individus, des entreprises ou même des États. C'est des situations où la décision prise par un agent impacte comment les autres vont agir ou réagir. En gros, le jeu correspond à une situation de la vie réelle où, par définition, deux agents ou plus vont devoir interagir de façon stratégique. Le fait que je décide quand aller faire mes courses n'est pas un jeu. Le fait de décider quel film on va aller regarder est un jeu. Ou peut constituer un jeu, et je vous propose, auditeurs et auditrices, si vous m'entendez bien, de reprendre ensemble un jeu comme le dilemme du prisonnier ensemble. Donc, deux prisonniers, un individu A et un individu B, ont commis un crime et sont interrogés dans deux cellules différentes. Ils ne peuvent pas communiquer pour coopérer et sont confrontés à deux choix, ne rien dire ou bien dénoncer l'autre prisonnier. Trois issues seraient possibles. Si A ne dénonce pas B et B ne dénonce pas A, faute de preuves, aucun de deux ira en prison. Situation 2. S'ils se dénoncent tous les deux, pas de chance, ils iront tous les deux en prison pendant 5 ans. Situation 3. Si l'un décide de ne rien dire, mais l'autre le dénonce, celui qui dénonce n'aura qu'un an de prison, mais le dénoncé aura la peine maximale de 10 ans. Maintenant, prenons un instant pour essayer de penser quel est l'optimum social pour les prisonniers dans ce cas de figure. Et si vous pensez que c'est l'option 1, vous avez raison, dans cette configuration, ils sont tous les deux contents parce que pas de prison. Malheureusement, dans ce jeu, le risque de ne pas dénoncer l'autre et d'être dénoncé est trop fort. Et ne pouvant pas coopérer, pas de bol, on se retrouve dans le paradoxe de la rationalité, c'est-à-dire que suivre sa rationalité en solo mène vers un équilibre du jeu où il s'entre-dénonce et personne n'est content. Et ce que je trouve pas... ce qui peut être employé dans de nombreuses situations. On cite souvent la crise de missiles de Cuba parce que l'URSS et les États-Unis auraient été plutôt contents à coopérer plutôt que de perdre la face ou de mettre le monde en danger. Aussi, pour les cinéphiles, la course des dégonflés dans le film de Nicolas Ray, La fureur de vivre avec James Dean, est aussi un beau exemple. Pour ceux qui sont encore plus cinéphiles, vous pouvez retrouver le biopic de John Nash qui a gagné un prix Nobel en économie pour ses contributions à la théorie des jeux. Et le film s'intitule Un homme d'exception qui, lui, a gagné l'Oscar du meilleur film en 2002. La théorie des jeux se trouve partout. Elle permet d'analyser les interactions en duopole de firmes, la location d'enchères pour les pages sur Google, mais aussi en biologie ou en informatique, on peut retrouver des équilibres de Nash. Alors j'espère que la prochaine fois que vous serez dans une interaction stratégique qui peut arriver lors de votre déplacement dans la rue, vous pourrez vous demander s'il y a un jeu à résoudre, à laisser passer la voiture qui arrive ou bien à foncer pour être le premier. Est-ce que les feux pour les voitures ne sont pas finalement un moyen de régulation de jeu ? Je vous laisse avec ces questions. Jouez bien et je vous souhaite un bon début de printemps.
Merci beaucoup, David. On a eu malheureusement quelques petites coupures, mais je pense qu'on a compris l'essentiel de ce que tu avais à nous dire. Merci beaucoup, David, pour cette chronique des clés de l'écho.